Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom, éternel.
Au début.
Au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait est réussi. Pardon.
À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et en prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur.
Le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux.
Ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent.
Ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice.
Ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux.
Il leur sera fait miséricorde.
Heureux les cœurs purs.
Ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font œuvre de paix.
Ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice.
Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Ce texte des Béatitudes que Anne et Alexandre viennent de nous lire, c'est sans doute un des textes les plus connus de la Bible et bien au-delà des chrétiens ou du christianisme. Un texte très connu, peut-être moins souvent mis en pratique que connu. Et même chez nous, on peut se demander dans quelle mesure on le met vraiment en pratique. Alors j'aimerais méditer un petit peu sur ce texte ce matin En s'arrêtant très brièvement sur chacune de ces perles, parce qu'on pourrait faire une prédication sur chacune, simplement pour qu'on puisse ensuite les reprendre personnellement, peut-être les reprendre en groupe, parce que je trouve que ça, c'est vraiment des paroles qui sont un peu à mâcher, comme dirait Henri Bachet, hein, à mâcher pour les vivre jour après jour. Alors, je dirais quelques mots sur la place qu'ils ont dans l'Évangile, parce que je crois que c'est tout à fait significatif, dans l'Évangile selon Matthieu. J'aimerais aussi souligner quelques contrastes entre ce texte et d'autres choses, même dans la Bible. Et puis ensuite, le parcourir, on le reprojettera à ce moment-là, le parcourir pour le mettre un petit peu en résonance avec notre aujourd'hui, et puis en tirer une invitation pour nous, qui n'est qu'un début. Donc ces béatitudes, c'est le début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Jésus est là sur une colline, ses disciples sont près de lui. Ce discours-là, c'est le premier parmi cinq discours ou cinq textes de discours qui sont dans l'évangile de Matthieu, qui a construit son évangile un petit peu comme un sandwich. Au début, il y a la naissance de Jésus jusqu'à l'appel des premiers disciples. À la fin, il y a la mort et la résurrection. Puis au milieu, il y a un sandwich à plusieurs couches. Alors, il y a cinq couches de discours. Et puis, entre deux, il y a des couches d'action de Jésus. De cette manière, Matthieu essaye de montrer ce que Jésus a enseigné, puis comment il l'a incarné dans sa vie, dans son parcours terrestre, sa manière d'accueillir des gens de tous bords, spécialement ceux qui étaient rejetés, mal considérés, considérés comme pécheurs, dont il a guéri les malades, et jusqu'à sa vie offerte sur la croix pour nous, dans la dernière partie du texte. Alors, le premier discours vraiment introduit le tout, et ça, c'est le prologue, c'est la porte d'entrée du discours de Jésus qui nous montre dans quel esprit les disciples sont amenés à vivre et à suivre ce chemin. C'est vrai que Luc, dans l'évangile de Luc, on a aussi les béatitudes, puis si vous allez regarder dans vos bibles plus tard, vous verrez qu'elles sont un peu différentes. D'abord, là, il y en avait 8. Dans Luc, il n'y en a que 4. Et puis l'autre différence, c'est que il y a deux autres différences. Luc, il dit « heureux ceci, malheureux ceci ». Et puis Luc, il commence avec « heureux les pauvres hein, ». Il y va direct, de manière peut-être plus provocante et plus matérielle, alors que Matthieu dit « heureux les pauvres de cœur ». Parce que l'évangile de Luc met particulièrement en avant le souci des pauvres matériels et la bonne nouvelle pour les pauvres. Mais il est certain que même si ces deux versions sont différentes, c'est un texte qui est reconstruit littérairement, bien entendu, mais elles font écho à des paroles frappantes de Jésus. Des paroles que Jésus a prononcées et qui ont vraiment frappé ses auditeurs. Des paroles qui ont un côté provocateur. Il faut bien reconnaître, commencer par « heureux les pauvres », c'est bon, nous on est peut-être habitués parce qu'on l'a entendu 100 000 fois, mais c'est assez provocateur. C'est un contraste saisissant avec ce qui est la pensée courante. Et cette proclamation, c'est une proclamation, hein, heureux ceux qui, proclamation de ceux qui sont le plus proche du royaume de Dieu et qui ne sont pas ceux qu'on pense. Alors des contrastes, j'aimerais en souligner quelques-uns. C'est pour ça que j'ai fait exprès de lire ce psaume 1, que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure en préparant, c'est pour ça que c'était un petit peu improvisé, mais ce psaume 1 se termine par « tout ce qu'il fait lui réussit ». Ben, la vision de Jésus dans les béatitudes, elle est en contraste avec quelque chose qui ressort de nombreux textes bibliques, qui est quelque chose qui a sa part de vérité. C'est une conception qui dit, ben, Dieu a donné une loi. Et puis si on respecte bien cette loi, eh bien tout va bien marcher, hein, la société marche bien, nos vies marchent bien, nous avons notre économie marche bien, tout ce qu'il fait lui réussit. Comme Abraham, avec ses nombreux troupeaux, etc. Oui, mais c'est assez en contraste avec ça, les béatitudes. Et puis on sent bien que cette vision où on agit bien et tout nous réussit ne correspond pas toujours à la réalité. Et en parallèle, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la théologie de la prospérité qui est bien vivante dans beaucoup d'endroits du monde. Un courant qui marque beaucoup d'églises, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, peut-être un peu moins chez nous, en Europe. J'étais au Laos il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que ça me frappe et ça m'attriste de voir à quel point ça marque certains dans l'église, et des gens que j'aime bien, qui sont des amis, mais qui sont en plein dans cette théologie qui dit, ben voilà, si vous suivez Dieu, vous serez bénis matériellement, vous deviendrez riche. Enfin, autant c'est dit de manière très patente. Et je lisais aussi un article sur, dans une revue catholique sur une méga église à Singapour qui expliquait un peu pourquoi cette théologie de la prospérité attire les gens, les jeunes en particulier, et ils ont même l'idée de vouloir être en mission avec cette forme de compréhension de l'Évangile. Et à mon sens, les béatitudes vont dans un sens totalement opposé à ça. Alors, en Europe, on est moins marqué par ça, mais on a aussi des gens qui pensent que quand on est malade, Dieu doit obligatoirement nous guérir. Et que donc, si on n'est pas guéri, c'est peut-être qu'on n'a pas assez prié, pas eu assez de foi, gardé un péché caché. Je crois que les béatitudes, c'est un peu nous vaccine contre cette tentation-là. Un des textes aussi qui questionne cette vision-là, c'est Job dans l'Ancien Testament, avec ce dialogue fort qui dure presque l'entier du livre, entre des amis qui pensent que le malheur est forcément une punition pour quelque chose, quelque faute cachée, parce que si tu avais bien agi, tu serais forcément béni, ça va avec. Et Job passe son temps à résister à ses amis, parce qu'il est conscient que c'est un mal subi et non un mal commis. Et je crois qu'encore une fois, dans l'esprit des béatitudes, Jésus se place résolument du côté de Job et non pas de ses amis. Mais si on en revient au temps de Jésus, le groupe de gens, la conception des choses auxquelles il est constamment opposé, et dans tout le reste de l'Évangile, c'est bien celle des pharisiens. Les paroles les plus virulentes de Jésus, elles sont toujours adressées à des pharisiens. Elles ne sont pas adressées ni à des étrangers, ni à des païens, voilà. Et alors, pour les pharisiens, qu'est-ce que c'était leur conception, si on la caricature un petit peu? Il y a un ensemble de lois qui sont très bien codifiées, il y en a 600 et quelques, je crois, qui sont tirées de la Bible, plus un certain nombre de traditions, pour qu'on sache exactement ce qu'il faut faire pour être juste devant Dieu. Et c'est vrai que ça a toujours été une tentation pour les chrétiens aussi de vivre avec cette manière codifiée. D'ailleurs, pour reparler du Laos, puisque j'en parle souvent, la conception qu'on a souvent dans le peuple en général, les chrétiens, c'est les gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas. C'est ce que les gens savent en premier. Bon, je trouve un peu dommage que ça soit par ça que les chrétiens soient connus quelque part. On aimerait que ça soit d'autres choses, voilà. Bien que c'est certainement très bien de ne pas se saouler et de ne pas fumer, c'est excellent, mais voilà. Alors, les pharisiens, donc, ils ont cette conception quelque part légaliste, et en plus, pour eux, il y a finalement deux catégories de gens. Alors, il y a ceux qui se conforment à tout ça, donc eux en particulier. c'est les justes. Et puis il y a les pécheurs, qui eux sont exclus de toute bénédiction divine. On les regarde de haut, on les méprise. Et ici, Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur ». Et en accueillant constamment des gens qui étaient considérés comme des pécheurs, Jésus se pose en contraste total avec cette vision des pharisiens. Et il dit un peu plus loin, directement, dans le Sermon sur la montagne, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, etc. Okay. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Alors c'est quoi cette justice qui surpasse celle des pharisiens? Ben, suivant comment on lit le Sermon sur la montagne, Jésus l'en a encore rajouté. Hein, il est très, très exigeant. Alors, si on conçoit que Jésus en a ajouté puis que c'est des lois encore bien plus sévères, ça devient quelque chose qui est à la fois très culpabilisant et inapplicable dans la vie concrète. S'arracher un œil, se couper la main, tendre l'autre joue, ça c'est déjà un peu plus réaliste. Mais je pense pas que vous avez éduqué vos enfants à ne jamais se défendre quand un copain veut leur piquer un truc ou voilà, je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'il y en a qui font comme ça, je ne sais pas. Voilà, mais j'ai des doutes. Je crois qu'en fait, Jésus se place sur un autre plan que des règlements. Il se place sur celui des valeurs fondamentales qui nous orientent dans nos attitudes dans nos relations avec les autres. Ces valeurs fondamentales qui agissent au tréfonds de notre cœur et puis qui font qu'on choisit ceci ou cela, qu'on va dire ceci ou cela. Celles qui animent notre relation, aussi bien notre relation personnelle avec Dieu que notre relation personnelle avec notre prochain, qui sont dans l'Évangile parfaitement liées entre elles. Les béatitudes sont aussi en contraste sur un certain point avec la vision bouddhiste du monde qui n'est pas très répandue dans l'Assemblée ici, mais qui est quand même très attractive pour beaucoup de gens aujourd'hui en Europe. Il est question de miséricorde. Heureux les miséricordieux, je suis sûr que pour un bouddhiste ça va très bien. On est tout à fait dans le même esprit. Mais sur un point, je trouve que c'est très différent. C'est la question de la souffrance. Parce que dans les béatitudes, la souffrance est complètement intégrée. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et pour le dire de manière un peu caricaturale et brève, mais je crois que c'est quand même une réalité, la voie bouddhiste, elle cherche à éviter la souffrance. Elle cherche un chemin pour éviter la souffrance. Alors que dans le message de Jésus, la souffrance est totalement intégrée et nous apprend à la traverser. Alors c'est facile à dire, beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile à pratiquer. Et puis bien sûr, les béatitudes sont en contraste avec la conception courante du bonheur qu'il y a, que vous avez autour de vous tous les jours, qu'on a à la télévision tout le temps. Et en particulier toute cette quête matérialiste, il nous faut toujours plus de choses de toutes sortes. Et puis cette quête matérialiste, elle est même presque encore plus forte dans les pays en développement, et on peut le comprendre. Mais là encore, c'est aussi facile à dire, parce que même chez nous, on a beau être des pays riches, on a beau avoir beaucoup de choses, la frontière peut être très petite, entre tout va très bien, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va plus, suite à un divorce, on a tellement de dépenses obligatoires qu'on l'équilibre, il peut très facilement, pour n'importe qui, se trouver dans le mauvais sens. Donc, c'est très facile de critiquer le matérialisme quand tout va bien. Bon. Voilà. Alors, je pense que maintenant, on a vu différents contrastes. Ça serait bien d'afficher le texte si on arrive à le mettre. Comme ça, on l'aura sous les yeux. Je ne sais pas si vous pourrez le lire jusqu'au fond, mais c'est peut-être trop petit. Ça va, oui, devant, ça va. Voilà, heureux les pauvres de cœur. Hein, heureux sommes-nous si nous savons que nous devons tout, que nous avons tout à attendre de Dieu. Mais aussi si nous sommes prêts à recevoir de l'aide d'autrui. Si nous sommes prêts à reconnaître nos faiblesses. Voilà ce que sont les pauvres de cœur. Et voilà, je voulais vous lire un verset qui n'est juste pas sur mon texte. Ça ne fait rien, je vais le rechercher ici. Psaume 24, 19. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas seulement des contrastes, mais il y a des résonances tout à fait positives avec beaucoup de textes de l'Ancien Testament dans ce que Jésus nous dit. Pardon. Le Seigneur est près des cœurs brisés. Il sauve les esprits abattus. Alors, naturellement, ça ne veut pas dire que Dieu aimerait qu'on soit abattu, mais c'est qu'il se sent particulièrement proche de ceux qui sont dans cet état d'esprit. Et pour ceux qui ne sont pas abattus par les circonstances de la vie, ben, il nous appelle à être sensibles à ça. Et quand on a soi-même des problèmes, ça peut aussi nous rendre plus sensibles à ceux des autres. Heureux les doux, car ils auront la terre en partage. Alors notez que Jésus n'a pas dit heureux les mous. Mais là encore, j'aimerais lire un autre verset qui résonne. Venez à moi, dit Jésus un peu plus loin, au fin du chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Je suis doux et humble de cœur. Et je crois que ça, c'est le modèle que Jésus nous donne dans sa personne pour notre mission ici-bas. Heureux les doux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais quand seront-ils consolés? Est-ce que c'est seulement pour après la résurrection? Moi, je crois que la consolation, elle est pour aujourd'hui. Tout en étant bien conscient que ce n'est pas toujours à 100%. Je sais personnellement que, voilà, certaines blessures, certaines douleurs, Dieu nous console, mais il reste des traces. Il y a des ruptures, des blessures, des choses qui nous arrivent, qui laissent des traces dans nos cœurs, même si Dieu nous donne la capacité de les surmonter et nous console. Mais je pense que là aussi, il nous donne aussi à travers les épreuves une sensibilité aux épreuves d'autrui. Et Dieu travaille en nous à travers ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui pleurent parmi nous pour un deuil. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de la justice. Alors de quelle justice s'agit-il? Je pense qu'il s'agit tout d'abord dans le texte d'une manière juste de vivre devant Dieu et devant les autres. Donc il s'agit de cette envie de vraiment suivre Dieu, vivre de manière juste devant lui, vivre de manière juste avec les autres. Aimer, pardonner. Mais je crois que ça englobe aussi toutes les préoccupations pour la justice plus largement dans notre pays, dans notre société, dans notre ville, dans le monde. D'une certaine manière, je crois que quand on regarde autour de nous, les gens savent ce que c'est qui est vraiment juste. On le voit dans certaines expressions. Hein. On a parlé des justes quand on a pensé aux gens qui ont pris des risques pour sauver des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'étais aussi frappé, j'ai peut-être déjà fait allusion à ça, mais quand Nelson Mandela est décédé à sa cérémonie funèbre, il y avait un ton qui était quand même très différent de ce qu'on entend habituellement à propos de tous les chefs d'État, comme si tout le monde se rend bien compte, même si la référence à l'Évangile n'a pas été faite explicitement, mais elle était quand même explicite pour Mandela lui-même. Les gens savent que demander aux gens la réconciliation après les horreurs qu'ils avaient vécues, c'était ça qui était juste. Ce n'est pas ce qu'on entend la plupart du temps, mais beaucoup de gens savent au fond de leur cœur que c'est ça qui est juste. Donc, quand Jésus parle de justice, je crois qu'il rejoint une préoccupation qui est vraiment partagée par beaucoup de gens. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Il leur sera fait, c'est passif, c'est une manière, hein, pour l'évangéliste Matthieu, de parler de Dieu sans le nommer. Les Juifs étaient très respectueux de Dieu et évitaient de prononcer son nom. Et le dire les choses au passif, c'est une manière de dire que Dieu va nous faire miséricorde. Et là encore, ça souligne ce lien indissoluble qu'il y a entre la miséricorde de Dieu à notre égard, notre miséricorde à l'égard d'autrui, entre le pardon reçu et le pardon donné. Le lien, il va dans les deux sens. Et si on n'arrive pas à faire miséricorde ou à pardonner, c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment bien compris de combien on était nous-mêmes pardonnés. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Allusion à quelque chose d'authentique dans notre manière d'être avec Dieu, avec les autres. On peut se poser la question parfois, est-ce qu'on dit la même chose, est-ce qu'on a le même langage, les mêmes attitudes quand on est entre chrétiens, quand on est dans le groupe de jeunes, quand on est aux réunions chrétiennes diverses, ou bien quand on est au boulot, quand on est avec les copains, à l'école, au bistrot, avec notre conjoint. Voilà, c'est les cœurs purs, c'est ceux qui peuvent avoir cette authenticité. On ne l'a jamais à 100%, mais c'est l'appel de Jésus. Heureux. Ceux qui œuvrent pour la paix, les artisans de paix. Et c'est vrai que dans notre monde, on peut être reconnaissant par rapport au vécu du XXe siècle avec deux guerres mondiales. Voilà, on n'a plus de guerre mondiale, mais combien de conflits on a? Combien de conflits ethniques? Combien de génocides? Et encore aujourd'hui, tous ces conflits à composantes religieuses. On est appelé à œuvrer pour la paix, et je pense que notre manière de dire des choses sur les autres peuples, sur les autres religions, etc., peuvent contribuer à la paix ou contribuer à envenimer. Et je pense que les chrétiens ont un rôle à jouer là-dedans. Et aujourd'hui, je crois que le pape François est chez les Palestiniens. Il va passer un temps égal chez les Palestiniens et chez les Juifs. Et je pense qu'on peut aussi porter ça dans nos prières. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et là encore, il y a beaucoup de persécutions aujourd'hui. Il y a 15 jours au Laos, pour faire encore une fois allusion au Laos, il y a un groupe de chrétiens à une centaine de kilomètres au sud, 70 kilomètres au sud de Savannakhet, qui se sont fait arrêter. Il y en a encore une dizaine en prison. Leur seul crime, c'est qu'en fait, ils s'étaient séparés de l'Église officiellement admise, puis ils ont construit une autre chapelle, et puis voilà, on leur reproche d'avoir construit une chapelle sans autorisation. Et puis voilà, alors je ne pense pas qu'on va les garder pour très longtemps en prison, mais toujours est-il que là, ça fait 15 jours et ils sont toujours dans le trou. Voilà, beaucoup de persécutions dans le monde. Avec lesquels nous sommes appelés à être solidaires. Alors pour maintenant arriver à une conclusion, je crois que ce texte, quelque part, il nous interroge sur nos valeurs, c'est-à-dire ce qui oriente nos manières d'être. C'est pas des nouvelles règles, c'est une orientation de la vie. Un jour, il y a un anthropologue, je crois que c'est Jacob Leven, mais je me souviens plus parce qu'il y a trop longtemps que j'ai entendu cette histoire. Il avait organisé avec des missionnaires et des autochtones, je crois que c'était en Amérique du Sud, hein, un espèce de petit forum. Et puis, il les faisait discuter sur la question des valeurs. Et à un moment donné, il leur fait dire, pour vous, c'est quoi la valeur première des missionnaires ? Ils ont été un peu surpris. Je ne sais pas ce que vous auriez imaginé que les gens ont répondu. Ils ont dit c'est l'argent. Ils étaient assez surpris, hein, les missionnaires, parce qu'ils n'avaient jamais enseigné l'argent comme une valeur. Où est-ce qu'ils ont été chercher ça, les gens qui avaient été évangélisés par eux? Voilà, c'est ce qui était ressorti de leur manière d'être. Alors ça nous interroge sur notre discours et notre manière d'être. Alors je crois que ce texte, ce magnifique texte des Béatitudes, il est et il reste une invitation. Une invitation à marcher sur le chemin de Jésus, ou à entrer sur le chemin de Jésus si on n'y est jamais entré. C'est aussi une source de méditation. Encore une fois, c'est pas un règlement, c'est un chemin à vivre. C'est quelque chose qui peut nous orienter comme une lumière sur notre sentier, hein, pour faire allusion à un autre texte des psaumes, et qui est pas fait pour servir de mesure pour juger les autres, mais pour nous encourager chacun à vivre comme ça. Alors, je dirais, on pourrait l'imaginer un peu comme un champ magnétique. Un champ magnétique, ça oriente toutes les petites particules. Alors c'est un peu un champ magnétique qui va orienter notre vie et puis qui va dans toutes les circonstances nous dire « mais qu'est-ce qui va dans ce sens-là » Et ça, on peut aussi le partager, discuter avec les autres et prier pour ça. À la fin de l'évangile, Jésus envoie ses disciples en mission en leur disant, en allant partout dans le monde, faites des disciples. Mais les béatitudes, c'est l'introduction à ce que c'est que des disciples. Et pour faire des disciples, on est invité à déjà en être nous-mêmes dans cet esprit. Donc on vient ici le dimanche matin, régulièrement, pour apprendre à être des disciples. Pour apprendre à vivre dans cet esprit-là et recevoir l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre. Alors voilà, c'est une invitation à méditer personnellement ou en groupe.
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je
n'est pour toi.